Alors bienvenue à cette sixième épisode de La Bonne Aventure. La Bonne Aventure, c'est une émission de podcast qui est réalisée par la Slow Gallery et qui présente chaque mois un vernissage, une exposition par un artiste ou une artiste et qui est accompagnée d'autres artistes. Donc aujourd'hui, c'est le vernissage, enfin la préparation de l'exposition de Alice Dess, Marée haute, marée basse. Le vernissage, c'est demain, jeudi 1er septembre, et on est accompagné de deux stars de l'illustration, Christelle Rodeya et Jessica Das. Merci beaucoup d'être là aussi aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tout le monde. Et salut Alice.
Salut.
Marée haute, marée basse, c'est ta première exposition solo. Et est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette exposition? Qu'est-ce que tu as voulu y mettre dedans?
Alors, oui. La genèse de l'exposition, c'était comme c'est ma première exposition solo, j'avais envie de faire quelque chose du coup de très personnel et en fait depuis que je réfléchis au fait de faire une expo, ça me trottait dans la tête de faire quelque chose sur ma région natale et notamment ma ville natale, donc Huimereux, toute la côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer. Et finalement, donc c'était assez prévu dès le départ, même si je me suis dit que finalement en mars ou en avril, que vraiment ce serait ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment beaucoup d'idées. Donc voilà, et j'avais envie de le faire à la gouache, moi qui travaillais d'habitude plutôt sur ordinateur et avec Photoshop. Là, j'avais envie de sortir un peu de l'écran pour retrouver le papier et la couleur et la peinture.
Du coup, c'est une exposition très personnelle. C'est une déclaration d'amour à ta ville, à tes origines. Tu t'es bien inspirée de plein de choses dans cette exposition. Il y a 47 dessins à la gouache. Et comme tu disais, enfin, c'est assez remarquable parce que tu dessinais pas forcément à la gouache. Et pour une première exposition entièrement à la gouache, c'est assez incroyable d'avoir maîtrisé le coup de pinceau sur des petits, des moyens et des super grands formats aussi, des compositions qui sont simples mais aussi très compliquées. Il y a aussi des céramiques, une collection de baigneuses en céramique, sans compter les petites moules et les petites frites en céramique aussi. C'est un énorme chantier là que t'as fait.
Oui, je me suis un peu laissée embarquer, justement quand il y a l'inspiration qui vient par vague, je me suis dit « allez, on y va ». J'avais déjà fait un peu de gouache en noir et blanc avant, il y a quelques années, et c'est vrai que là, c'était un peu mon challenge, c'était de passer à la couleur. J'avais essayé plusieurs fois, je m'étais un peu cassé les dents dessus parce que j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais, et là, j'ai l'impression que j'ai un peu débloqué ce côté-là. Donc je suis très contente, mais ouais, j'avais envie de faire plein de supports, essayer de justement de me mettre des challenges sur les formats, et sur la céramique aussi, qui est aussi une partie de mon travail que j'aime beaucoup faire. Donc, c'était une belle façon de lier un peu tout et chaque visuel et chaque céramique un peu et lier à un souvenir de quand j'étais petite. Et donc c'est assez plein de sens, c'est assez personnel, donc je suis assez contente.
Oui, parce qu'il y a du boire, il y a du manger dans ton expo. Il y a la fête de la moule de Huimereux. Il y a aussi des scènes plus contemplatives de plage. Enfin, t'as mis plein de choses dedans. Je pense que comme on s'en parlait, tu vas être célébré à Huimereux l'an prochain, je pense, pour la prochaine fête. Oui, il y a plein de moments différents dans cette expo.
Oui, tout à fait. Je pense que la nourriture et la boisson fait partie de la culture là-bas. Et c'est vrai que c'est un truc où quand je reviens, parce que ma famille habite toujours là-bas, donc c'est aussi un petit clin d'œil pour eux et ça me fait très plaisir parce que mes parents seront là demain. Donc c'est aussi un clin d'œil à quand je remonte de temps en temps chez eux pour le week-end. Le petit plaisir, c'est d'aller manger une moule frite en terrasse. Donc il y a plein de petits souvenirs qui sont vraiment que des petits souvenirs positifs, un peu rigolos. Et c'est chouette. C'est ça qui fait que vraiment la Côte d'Opale, c'est très sympa.
Et ça fait écho à la précédente expo, celle de Béa, qui s'appelait Les Beaux Jours. Toi, ce sont les Beaux Jours du Nord, en fait. Et ça prolonge l'été.
Exactement.
Alors ta façon de travailler, après on va faire participer aussi Christelle et Jessica, Christelle Rodeya et Jessica Das sur leur façon de travailler elles aussi. On commence par Alice. Comment est-ce que tu travailles? Parce que sur cette expo, on a essentiellement de gouache et aussi de céramique. Il y a un soin, c'est évident, il y a beaucoup de soin qui est apporté et on sent beaucoup de patience et un sens peut-être de la perfection aussi parce que tout est vraiment fait avec beaucoup de joliesse, de soins, tout est très très bien exécuté. Enfin, on sent qu'il y a eu que voilà, beaucoup de une réalisation avec beaucoup de patience. Et est-ce que tu as l'obsession de la perfection?
Alors, la perfection, je pense pas, parce que pour moi, je vois les erreurs ou les choses qui auraient pu être parfaites, qui le sont pas, et ça me va quand même, et c'est aussi une différence par rapport à quand je travaillais sur Photoshop, où j'avais tendance à revenir vachement plusieurs fois pour faire 12 fois le même trait pour qu'il soit selon ce que je voulais, exactement, parfaitement. Et là, je savais qu'en passant à la gouache, ce serait pas possible, mais par contre, j'avais envie que ce soit le mieux que je puisse faire à cet instant-là, c'est-à-dire que si je faisais un dessin et que je savais que je pouvais faire mieux dans l'état actuel de mes compétences et tout, bah je les refais. Et donc il y a certains dessins que j'ai fait 5 ou 6 fois. Et je pense pas que ce soit forcément celui dont on se doute le plus. Celui que j'ai refait 6 fois. Ouais, bah je vous demanderai.
C'est pas forcément le plus compliqué.
Non, c'est pas forcément le plus compliqué, ouais. Mais pour que ça corresponde, ouais, par contre j'ai vraiment cette volonté de contrôler justement là où je tolère les imperfections et les petits accidents graphiques. Et là où, par contre, je trouve qu'il faut que ce soit vraiment hyper carré, hyper cartésien. Quand je dessine, par exemple, un personnage, je me dis le visage doit être vraiment hyper carré, que les yeux soient au bon endroit, etc. Ça paraît idiot, mais là où, par exemple, je peux avoir des accidents dans les cheveux, etc., ou des choses où ça, par contre, je trouve ça assez joli, donc... Ouais, c'est plus une question de contrôle que de perfection. Mais c'est rigolo qu'on en parle parce qu'effectivement, moi, je trouve que il y en a une qui est très très perfectionniste, je pense. C'est à cette table. Donc, Christelle, est-ce que...
Oui, effectivement. C'en est presque obsessionnel. Du coup, c'est un peu, des fois, c'est un peu handicapant parce que on veut tellement que ce soit parfait que, comme expliquait Alice, le travail sur ordinateur, c'est un peu le piège parce qu'on peut toujours revenir sur ce qu'on fait. Et alors que quand on est sur papier, bah on peut revenir aussi, mais en fait c'est trop fatigant de le refaire à chaque fois. Donc moi c'est aussi personnellement ce que j'avais fait pour mon exposition. J'avais pas tenté la couleur au début, je voulais essayer, mais c'était trop compliqué pour moi personnellement. Je pense peut-être à la prochaine, on verra. Mais j'essaye aussi un peu de me détacher de ça parce que moi je travaille beaucoup au crayon à papier et après je passe au numérique pour faire la couleur. Mais j'aimerais bien passer à la couleur même de façon, sur papier aussi en fait, pour que ce soit plus se détacher un peu de l'écran, comme expliquait Alice, parce que ça fait du bien aussi. Je pense qu'on en a besoin dans notre travail, en fait, puisque à la base, on est un peu des amoureuses du papier. Enfin, on le voit, hein, Alice, elle a des stocks de papier à l'atelier. Elle a tout un magasin. Et puis, nous toutes réunies, on a vraiment un stock de feuilles, de feutres, de machin. Enfin, voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'on partage aussi nos expériences et...
Juste, je précise, parce que vous êtes toutes les trois, ça j'aurais dû le dire en début,
oui, mais dans le même atelier
de présentation, oui, Jessica Das, Christelle Rodeya et Alice Des partagent le même atelier.
Ouais, et Alice est vraiment ma voisine d'en face, donc je la vois travailler, on se voit travailler mutuellement. Comme voisine, elle est hyper hyper agréable.
Mon bureau est un peu bordélique.
Oui, voilà, c'est ça. Mais à la fois, c'est marrant parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à ton travail. C'est à la fois une espèce de liberté dans ton travail, mais un peu carré dans le sens où t'as ton bordel organisé, quoi. Ce qui correspond bien à ton travail, je trouve. Enfin, ça peut paraître un peu lâché, mais à la fois, c'est quand même très contrôlé, comme tu disais. Et Jess, du coup, je te dis.
Oui. Moi, j'ai rejoint l'atelier il y a quoi, 3 mois. Ouais. Donc, je découvre. Enfin, je me suis très vite intégrée parce que c'est dur de pas faire autrement. Franchement, l'ambiance est super et c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée cette année, de prendre la décision de travailler avec d'autres gens. Et c'est hyper stimulant parce que, comme on disait tout à l'heure, on a des styles très différents, on a des clients aussi assez différents, mais au final, il y a plein de points communs. Et c'est vrai que le processus créatif, on est tous, enfin, on se pose tous les mêmes questions. On essaye toujours de se renouveler. Toujours le dilemme entre l'ordi, le tradi, parce que je pense que, enfin, moi, je travaille beaucoup aussi sur l'ordinateur. Et j'aime bien, hein, y a pas de souci. C'est juste que je pense que comme tout, quand on est enfermé dans une routine, on aime changer de technique et de média, et ça peut être plus libérateur. Alors moi, je suis pas forcément un très perfectionniste. J'ai un style beaucoup plus, enfin, on pourrait dire plus simple, et je travaille en aplat de couleurs, donc je ne travaille pas au trait, ce qui peut peut-être me donner une sorte de liberté. Mais en fait, comme je suis pas quelqu'un de carré. Quand je commence un dessin, j'ai l'impression de repartir à zéro à chaque fois et je me pose toujours les mêmes questions. Enfin, quand même, je travaille plus vite qu'au début, mais à chaque fois, c'est un peu le chaos. Et puis après, ça prend forme. Et au départ, je vais pas du tout. Enfin, mon dessin peut prendre une direction complètement opposée de ce que j'avais en tête. Enfin.
Mais tes compositions couleurs, elles sont à chaque fois, elles sont géniales. Enfin, moi perso, je suis assez impressionnée à chaque fois que je te vois justement partir de forme ou de juste de couleurs, en fait, d'aplats de couleurs, et réussir après à faire toute une composition. Moi qui suis pas forcément hyper à l'aise parce que je pense en ligne plus qu'en couleurs, bah c'est hyper impressionnant. Et je pense que Alice, elle est un peu pareil parce qu'on travaille toutes les deux un peu de la même façon. On pense en ligne, en fait, on est vraiment plus par le dessin. Nous, à chaque fois, enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis fascinée, quoi. J'aimerais bien aussi penser couleur avant de penser...
Justement, ouais, la couleur, c'est vraiment un sujet dans votre travail. Comment vous le traitez? Comment, alors, on va commencer par Alice, mais quelle part elle a dans votre travail? Est-ce que c'est naturel pour vous, la couleur, le passage à la couleur? Ou est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en parler, Alice?
Alors je pense qu'avec Christelle on est un peu plus proche là-dessus. Bon, en tout cas pour ma part c'est hyper laborieux. Je pense d'abord en noir et blanc. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'avais un prof de dessin qui m'avait dit un truc qui je pense est assez. Enfin on peut en débattre. Je suis pas sûre que ce soit absolument vrai, mais qui avait dit si ton dessin marche pas en noir et blanc, il marchera pas en couleur non plus. Dans le sens où si ta composition fonctionne pas et que t'as besoin de la couleur pour sauver le truc, c'est que ça marche pas. Et du coup, en fait, ça m'est resté en tête pendant des années. Et du coup, j'ai beaucoup fait de noir et blanc et je pense d'abord en noir et blanc. Mais du coup, au moment du passage en couleur, c'est pas toujours évident de retrouver l'harmonie. En fait, j'aime bien le noir et blanc tel qu'il est et j'aime bien le gros contraste côté très binaire du truc. Et du coup, c'est pas évident de retourner à la couleur. Et effectivement, moi, je suis à chaque fois complètement subjuguée par les compos de Jess et la facilité avec laquelle t'arrives à trouver des harmonies de couleurs assez spontanément et qui marchent hyper bien et qui sont audacieuses et tout. Moi, il faut que je revienne à la théorie, que je teste plein de trucs. Et même pour cette expo, il y avait un sujet aussi couleur où la mienne m'a aidé aussi à choisir. En disant, on fait limiter et comme ça, plus on limite en fait, plus il y a de contraintes quelque part. Moi, ça m'aide aussi à ne pas me poser trop de questions.
Et voilà. Mais t'as pris du plaisir du coup à ce passage en couleur. C'était pas la torture.
Non, pas du tout. Une fois que mais effectivement, je pense que plus c'est limité et moins je me pose de questions. Quand on me dit t'as trois couleurs ou quatre couleurs et du noir et blanc, une fois que c'est dit, que c'est fait et que c'est comme ça et pas autrement, là ça m'enlève un poids et ça va très bien et je suis très contente du résultat et j'aime bien la couleur de manière générale. Mais c'est vrai que le noir et blanc a une petite place un peu spéciale dans mon cœur. C'est comme ça que j'ai commencé la gouache et que, en fait, j'aime vraiment bien le noir et blanc depuis que je suis petite. J'aime quand même bien. La couleur, c'est... J'aime beaucoup, mais c'est pas aussi vital pour moi que ça peut l'être pour, par exemple, Jess, je pense.
Ah oui, moi, c'est... Oui, moi, c'est un peu mon... Je sais pas, c'est mon super pouvoir. C'est ce qui m'a sauvée à l'école parce que, autant, je galérais en dessin et c'était quelque chose... Enfin, toujours maintenant, le trait, pourtant, j'adore et j'aimerais. Et parfois, j'essaye. Mais par exemple, quand je dois, comme on dit, cliner un dessin au trait, c'est-à-dire faire des belles lignes de plein et délié, je peux passer une journée et je suis pas satisfaite du tout parce que j'ai pas l'habitude. Et aussi, finalement, ce que j'aime dans les aplats sans contour et les couleurs, finalement, c'est que c'est vraiment la juxtaposition, l'assemblage des couleurs qui va créer une sorte d'émotion et même une composition, parce que c'est vraiment les couleurs les unes par rapport aux autres qui vont dégager quelque chose. Et j'ai vraiment besoin de ça pour créer ma composition. Je vais faire des formes de couleurs, je vais les poser les unes à côté des autres, je vais voir comment elles se répondent entre elles. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que c'est une technique qui prend beaucoup de temps et c'est vrai que maintenant comme je fais de la commande et qu'il y a quand même des délais plus ou moins courts, je fais quand même une petite phase de rough où je prépare mon dessin et ça me fait gagner du temps, mais si je pouvais, j'aime bien aussi me passer de l'étape de croquis et d'aller directement comme du papier découpé. Et je travaille sur Photoshop au lasso, donc je retrouve vraiment cette sensation où je crée une forme comme si vraiment j'allais donner des grands coups de ciseaux dans mon calque Photoshop.
Tu fais aussi, donc les superpositions de couleurs.
Oui, ça aussi, ça m'intéresse de voir comment se mélangent les couleurs. Et parfois, je peux travailler avec le mode produit sur Photoshop, qui peut aussi rappeler un peu les techniques d'impression, sérigraphie et RISO. Donc ouais, c'est vraiment l'étape où la couleur pour moi c'est aucune pression, ça vient, je sais pas trop pourquoi, mais ça, j'ai toujours aimé et ça m'a jamais complexée, alors que je suis complexée sur plein d'autres trucs, notamment le trait et trouver l'idée. Ça aussi, c'est quand on doit commencer un dessin, faut forcément exprimer quelque chose et c'est ça qui prend le plus de temps.
C'est un sujet, ça, effectivement, de parler des compositions. Comment vous travaillez vos compositions de dessin en fonction du sujet demandé, Alice? Juste une petite aparté, parce que pour revenir sur ton travail d'autrait, c'est vraiment effectivement très beau ce que t'as fait pour cette expo, parce que bon, les paysages, on sait que t'es très à l'aise aussi, mais les corps sont très souples, très vivants, très fluides, alors que ton style est très graphique et très sobre. Il y a beaucoup de vitalité, c'est très gracieux. Et avec une économie de traits, t'arrives à faire une intensité d'expression et de fluidité dans les mouvements. Bravo, c'est vraiment très très réussi. Les corps sont très souples et déliés. Et comment justement chacune vous travaillez sur vos compositions de dessin? Alice, toi tu fais de la photo et je pense que ça a une importance. Enfin, t'en parlais un peu en amont de ton travail, l'importance de la photo sur tes compositions.
Eh ben déjà merci, c'est très gentil. Effectivement, la photo joue un gros rôle d'inspiration et même de un peu mémo visuel pour moi. Je fais de la photo. Ce qui m'amuse le plus, c'est en fait quand je suis passée illustratrice à temps plein, j'avais besoin d'une soupape créative, justement de trouver autre chose où je pouvais exprimer ma créativité et qui soit pas quelque chose qui soit mon gagne-pain entre guillemets. Donc je me suis mis à la photo argentique, j'ai récupéré l'appareil photo de mon père, puis après là celui de mon grand-père, etc. Et je me suis pris vraiment d'amour pour ce médium-là, et j'ai commencé à faire plein d'expos, à acheter plein de livres, à essayer de comprendre comment ça marchait pour faire une belle photo, et je pense qu'effectivement ça a un peu inspiré aussi la manière de cadrer, de jouer avec la lumière, les positions des décors, les intentions, ça a été vraiment un peu un déclic là-dessus aussi. Et pour les personnages, je pense que c'est ce qui m'amuse le plus à dessiner, en fait. C'est vraiment ça qui... J'aime bien les personnages qui restent expressifs. Donc, avant, j'avais un style un peu plus BD quand je me suis mis artiste-auteur en parallèle de mes études. J'avais un style qui n'avait rien à voir, qui était un peu à mi-chemin entre le Disney, le manga, le Margot Motin, enfin un peu un mix, un mash-up de tout ça. Et on m'avait dit non, mais ça marchera pas. Si tu veux faire de l'illustration, ça marchera pas. C'est pas du tout graphique. À la limite, ça marcherait peut-être en édition et même pas, parce que le manga à l'européenne, c'est pas... Bref, je me suis un peu pris un peu quelques taquets, mais qui était très constructif, parce qu'effectivement ça m'a fait évoluer d'essayer de chercher quelque chose d'un peu plus graphique, et en même temps j'avais envie de garder quelque chose d'expressif et de vivant. Donc ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que j'ai l'impression d'avoir coché la case style plus graphique, et en même temps j'ai gardé ce qui me plaisait un peu dans les trucs que j'avais depuis un moment de faire des personnages, mais c'est rigolo. Et effectivement, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on a des styles de composition qui sont hyper différents. Moi, j'admire beaucoup Christelle, qui fait des compositions qui sont hyper détaillées, hyper fines, avec une délicatesse incroyable. Du coup, toi, comment tu fais pour composer tes images?
Moi, je me réfère pas mal à la photo, mais pas de la même façon que toi. En fait, je me documente beaucoup j'aime beaucoup me documenter sur des photos un peu vintage, qui ont déjà été prises. C'est pas moi qui vais faire la démarche. C'est vrai qu'au niveau des plans, c'est pas des plans, souvent des plans de face. Enfin, on voit, c'est régulièrement les mêmes. Parce qu'après, tout ce qui est perspective et tout ça, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'en plus, comme moi, je fais plutôt des choses assez réalistes, on va dire. La perspective, ça demande beaucoup beaucoup de travail. donc voilà, mais sinon je me documente beaucoup, ouais, sur même parce que je dessine beaucoup de fleurs, beaucoup de tout ce qui est végétaux, et ça je me documente beaucoup sur des livres de botanique ou des choses comme ça, ou les livres d'anatomie que j'aime bien, même s'ils sont finalement ils sont un peu faux maintenant, parce que c'est des choses qui sont assez vintage, où ils mettaient des trucs un peu bizarres de chirurgie et tout ça. J'ai ça à la maison, ah oui. Parce que je suis passionnée de l'illustration scientifique. Je pense que ça se ressent un petit peu dans mon travail au niveau du détail, et voilà, les gravures et tout ça, je trouve ça super beau. Mais sinon après je déforme complètement la réalité basée sur un dessin plutôt réaliste, mais j'aime bien changer les échelles.
Oui, pour ton exposition, voilà, il y a un an, ouais. Effectivement, c'était complètement surréaliste. Oui, en fait, voilà, des choses très, très finement exécutées, mais dans des perspectives qui pouvaient pas exister, en fait.
Oui, voilà, exactement. J'aime bien ce petit truc-là, en fait.
C'était très fort.
C'est un peu perturbant, parce qu'on se dit, c'est réaliste, mais finalement, pas tellement.
Comme dans
parce
un rêve.
Voilà, exactement, comme dans... ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire ça, en fait, de jouer avec ça, parce que des artistes comme Ron Mueck, qui fait de l'hyper-réalisme, des sculptures, enfin, j'avais fait une exposition il y a quelques années maintenant, j'avais été, mais complètement fascinée, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, et c'était, c'est incroyable, en fait, c'est vraiment des personnages, des sculptures d'hommes et de femmes, mais dans des tailles complètement, c'est ça, la Fondation Cartier. Exactement, il y a toujours un côté un peu étrange, des fois un peu dérangeant, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas tellement, mais j'aime bien cet effet là voilà, donc ça joue sur mon travail.
Oui, toi tu joues sur le décalage.
Voilà, exactement. Plus que sur la composition, je crois que je reste assez classique en général, alors que Alice, on voit que elle a une influence photo, parce que au niveau de ses cadrages et tout ça, fait vraiment comme si elle avait pris une photo d'un instant T. Enfin, que j'admire, je trouve ça super joli, parce que elle arrive à dégager ça alors qu'elle a un dessin qui est quand même simple entre guillemets, parce que c'est pas simple, hein, mais c'est plus plus graphique, plus fort, en fait, il y a moins de détails, mais du coup c'est hyper efficace, en fait, le côté il y a un plan, un point de vue, et ça donne tout de suite une espèce d'intimité, en fait, dans son travail, et un rapprochement avec le lecteur ou la lectrice qui regarde. Voilà, c'est très gentil. Et Jessica, du coup, je te laisse parler de ton travail.
Oui, je voulais un peu revenir sur les dessins d'Alice, parce qu'ils sont sous nos nez. Et ils sont tellement beaux qu'on les regarde. Mais ce que j'adore, c'est vraiment comment t'as laissé des respirations et du blanc. Et je trouve que finalement, cette palette limitée te va très très bien. Et ton orange est fabuleux.
C'est le orange crustacé.
Est fabuleux aussi. Enfin, le jaune aussi. Hein.
C'était la palette choisie, jaune, soleil, bleu de la mer, ouais. Bleu azur et orange crustacé.
C'est super beau. Ouais. Donc, bravo. Moi, c'est le rythme qui compte. Donc, j'aime beaucoup, enfin, j'écoute beaucoup de musique. Et c'est vrai que souvent, quand j'écoute une musique, ça me met dans un mood et je vois des choses. Enfin, je dis pas que je suis synesthésique, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui voient vraiment des couleurs quand ils entendent des sons. C'est pas vraiment ça, et je prends pas de drogue non plus, hein. Mais ça réveille plein de choses. Une musique, et ça va me donner des envies de dessin. C'est un peu pareil pour les films ou les gens qui dansent. Enfin, quand c'est un mélange de sons et d'images, ça m'inspire. Je vais prendre des notes et ça va me inspirer comme l'expo qu'on a fait ensemble,
oui,
à la
sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Alors là, on avait dansé pendant ton
vernissage. C'était impossible de faire autrement. Ah bah, j'avais ramené un bon groupe de musique quand même, hein. Ils étaient vraiment bons.
Mais c'est vrai que tes dessins étaient très connectés à la musique, en fait. C'était des farandoles,
des chansons. En fait, j'avais préparé en fait, j'avais quand même fait le voyage. J'avais été voir le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, et je suis revenue avec plein d'images et de sons dans la tête. Et mais quand j'ai préparé l'expo, tous les titres de mes dessins, c'était un titre de chanson. Donc vraiment, j'avais préparé la playlist avant de faire mes dessins. Enfin, bon, voilà, c'était... Ouais. Et
Super Expo, c'était il y a trois ans.
C'était en 2018.
2018.
Ouais, ça commence à dater.
Oui. Il faut en refaire une.
Ah oui, bah je suis sur liste d'attente, je crois, parce que maintenant pour exposer à la Slow Gallery, il faut s'y prendre genre 2 ans en avance. Non,
c'est vrai, c'est 2024 maintenant, Jessica. Mais on va en parler, on va en parler.
Non, mais c'est bien. C'est bien parce que c'est vrai que ça prend du temps et une expo, on a envie de bien la faire. Et j'ai vu Alice.
Je suis pas le meilleur exemple là-dessus.
Mais toi aussi, Alice, t'as produit vite, hein, parce que t'étais très occupée par des travaux de commande et finalement, c'est quand t'as dégainé début août. Et là, c'est parti, enfin.
Un feu d'artifice.
C'est ça, bah, les filles peuvent rigoler parce qu'effectivement, je pense que ça fait depuis juin où j'ai essayé de dire même à mon agent, genre, je prends plus rien, sauf qu'en fait, j'ai des projets de long terme, ils se sont tous décalés. Je me retrouvais avec un mois de juillet hyper dense à essayer de tout boucler. Et puis finalement, mi-juillet, j'étais en stress total en me disant, ah, il faut que je, et l'expo, j'ai toujours pas le temps de la faire. Et les filles disaient, mais si, ça va aller. C'est Caroline, une autre qui partage l'atelier avec moi, qui disait, oui, bah, écoute, si t'avais la technique de Christelle, je te dirais, ce n'est pas jouable. Mais peut-être que, à la gauche, ça va.
Du coup, Alice, elle me dit, mais quand est-ce que t'as commencé à te mettre sur ton expo?
Toi, t'as mis combien de temps?
Je sais pas parce que du coup l'avantage c'est que la date je la connaissais depuis un moment, là ça a été repoussé puis après j'ai été enceinte donc on a voulu repousser, après j'ai dit ah la mienne non c'est pas possible parce qu'après je vais vraiment pas pouvoir, ça va être très très compliqué je l'ai commencé vraiment. En fait, comme disait Alice tout à l'heure, le plus dur, c'est un peu le process, ou même ce que tu disais tout à l'heure, Jessica, c'est le process, en fait, de savoir ce qu'on va faire. Une fois qu'on s'est un peu cadré, comme la couleur, comme tout, en fait, quand on fait de la création, on a besoin de cadre, malgré ce qu'on peut croire, en fait, et puis la plupart des artistes, je pense, vont vous le dire, moins on a de cadre, et plus c'est difficile de créer, parce qu'en fait, on a un esprit qui veut aller un peu partout et on a du mal à se canaliser, alors que une fois qu'on a un espèce de chemin, on le suit et c'est pareil pour la couleur et c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai fait exactement pareil pour mon expo. Je voyais tout en noir et blanc, ça fonctionnait bien, sauf qu'après je me dis oh là là mince la couleur, j'ai pas arrêté de m'arracher les cheveux sur la couleur et comment puis-je travailler en numérique, j'arrêtais pas de revenir dessus. Bref, et après je me suis imposé une couleur. Enfin, un thème coloré, et je l'ai suivi, et tout de suite, ça a coulé de source, c'était beaucoup plus simple, en fait. Donc, c'est vrai que je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai commencé, parce que j'avais finalement commencé à la penser peut-être un an avant, enfin, vraiment l'été d'avant, en fait, où j'avais essayé de faire des petits croquis. Au début, je voulais m'imposer un thème, après, je me suis dit, bon, en fait, j'ai d'abord fait des dessins, et le thème est venu, en fait, à force, parce que finalement, quand on fait quelque chose qui nous ressemble, en fait, ça vient un peu de soi, on dessine et il y a un fil conducteur finalement, donc, et bah, forcément, ça, c'est venu un peu de soi, puis après, une fois qu'on a commencé à aller sur ce chemin, bah, on arrive à dérouler plein de dessins qui vont autour de ce thème, comme t'as fait Alice, parce que au début, je sais que elle était effrayée, à chaque fois, elle disait, oh, mais j'ai toujours pas avancé, mais t'inquiète pas, ça va venir. Puis après, tu nous avais montré tes croquis, mais on disait, mais c'est bon, tu les as, comme moi, j'étais partie voir la mienne, j'étais là, oh mon Dieu, et après, elle m'a dit, mais c'est bon, regarde, t'as tous tes dessins, ils sont là. Donc, c'est juste que ça apparaît.
On a besoin de réassurance un peu.
Oui, voilà, c'est ça, on a besoin d'être un peu recadré, et d'où le travail de la mienne qui nous tient un peu par la main des fois pour nous dire bon ben bah, voilà t'inquiète pas ça va bien se passer et qui nous laisse pas du tout, qui nous met pas du tout la pression, si ça t'y arrive pas c'est pas grave, enfin voilà, et ça c'est agréable aussi hein. Ça nous permet de travailler plus sereinement enfin et de prendre plaisir parce que c'est le plus important en fait. Ah, c'est oui, ce que tu nous disais tu nous dis à chaque fois de prendre plaisir et une fois qu'on a bien intégré cette idée on se dit bon tu sais quoi, je vais me faire plaisir, et puis pas de stress, c'est pas une commande.
Voilà. Bah ouais. Et c'est vrai que la vierge, je dois te remercier parce que il y a eu, justement, de ce début juillet où j'étais sous l'eau au niveau des commandes, etc., je suis venue avec mes premiers originaux et je m'étais dit, en fait, j'y arrive pas, justement, j'étais trop dans ce contrôle à me dire, bah en fait, c'est un trop gros morceau de passer du noir et blanc à la gouache, que ça allait, j'aime bien, à la couleur où vraiment ça faisait plusieurs fois que j'y arrivais pas. Et donc, je suis arrivée avec des premiers originaux en me disant, bah en fait, je le sens pas, je vais repasser sur Photoshop, et la mienne m'a dit non. Et en fait, je suis tellement contente que tu m'aies dit non, mais les originaux, ça, c'est très bien, on continue. Justement, le côté un peu plus spontané, un peu plus doux, c'est très sympa, le papier est chouette.
Oui, et même toi, oui, il y a quelque chose d'hyper sensuel dans le fait d'avoir peint à la gouache, ça n'a rien à voir, le trait, le coup de pinceau, le choix du papier que t'as fait bien grainé, il a bord frangé, il est super beau, d'ailleurs, on l'a laissé visible dans les encadrements. Et puis, tu disais aussi que t'aurais peut-être pas pu faire 47 dessins sur Photoshop, parce que avec l'idée de retoucher, enfin l'envie irrésistible de retouche et de retouche et de retouche, tu l'as pas quand tu dessines à la gouache, même si tu as refait quelques dessins, t'aurais pas pu tenir ce rythme.
Exactement. Et en fait, c'était quelque chose que je voulais faire, en fait, de passer à la gouache en couleur. Et en fait, ça m'a permis de vraiment débloquer ce truc. Et je suis tellement contente de l'avoir fait maintenant, même si ça me faisait peur au début, en fait, d'avoir ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait c'était un gros challenge pour moi, et je suis très contente que tu m'aies encouragée à le faire.
C'est incroyable, enfin je pense que vous êtes d'accord, Christelle et Jessica, de voir la réalisation, la perfection de la réalisation, ouais, alors que c'était ton premier. Ces petites vagues. Mais tu disais que c'était presque un travail méditatif quand même, la gouache, pour la préparation de cette exposition. Il y avait beaucoup de concentration sur tes dessins. Ça paraît simple comme ça quand on les voit, mais il y a beaucoup beaucoup de techniques et de travail. Il y a aussi un peu de pochoir sur certains dessins, pas sur celui-là, mais
Bah effectivement, alors ce qui est rigolo, comme c'était la première fois que je faisais de la gouache en couleur, j'ai commencé par des visuels qui étaient assez simples, donc il y a pas mal de petits visuels avec des objets isolés qui fonctionnent bien en série, parce que c'était des petites blagues, les moules frites, etc. Et en fait, j'ai fait un peu mes gammes sur ces visuels-là, et c'est là où j'ai commencé à incorporer de plus en plus des petites techniques, notamment... j'ai commencé à acquérir la minutie là-dessus, et surtout aussi j'ai acheté des scotchs un peu spécifiques pour faire justement des méthodes de pochoir.
Donc, oui, c'est ça.
Tu as raison, il y a effectivement des choses qui relèvent un peu du pochoir, du moins pour garder masquer des parties. J'ai essayé aussi la gomme liquide, ça n'a pas du tout fonctionné, donc je suis restée sur du scotch, mais par contre ça prenait effectivement énormément de temps de poncer le fichier, de préparer tous les petits morceaux de scotch pour que ça épouse bien les formes. Le plus compliqué, c'était Miss Moule. Donc, vous avez une petite Miss Moule quelque part, il faudra la retrouver, mais en fait, elle était assez technique à faire parce qu'il fallait que je fasse des petites fleurs en scotch, qu'après j'épouse. Enfin, il y a eu vraiment plusieurs étapes de scotch et de pochoir pour arriver à Miss Moule telle qu'elle est, qui est un petit visuel très rigolo. Je ne sais pas si elle se fera adopter. J'espère que oui, dans son char.
Ah oui.
En fait,
tout à fait.
Il a fallu
effectivement.
Oui, il y avait vraiment une élection de Miss Moule lors de la fête de
la fête.
La fête de la moule, voilà.
Donc, elle est très mignonne. Et pour revenir au travail d'Alice, c'est vrai que, bah, tu vois, Miss Moule, enfin, pour le coup, enfin, c'est hallucinant parce que c'est tellement fluide qu'on dirait pas que t'as galéré, en fait.
Oui.
C'est ce qui est le plus beau, finalement. C'est que t'as l'impression que c'est très simple, mais à la fois, ça l'est tellement pas. Donc, mais ça marche super bien, enfin, parce que ça donne vachement de texture, et avec le papier, ça, tout de suite, ça le fait ressortir, hein, un papier qui est sublime, et, enfin, vraiment, tu respectes ton support, quoi, ça, et même la gouache, enfin, ça donne de la texture.
Et si on parlait de ton parcours d'illustratrice, assez atypique, Alice, par quoi t'as commencé? Est-ce que tu peux nous parler de ta formation initiale et du déroulé ensuite?
Alors, je n'ai pas fait d'école d'art. Et là, les filles rigolent parce que c'est devenu un running gag. Je dis trop souvent que j'ai fait Sciences Po, mais j'ai fait Sciences Po.
Ah bon?
Mais je ne savais pas si vous le saviez, mais voilà. Non, j'ai fait des études à Sciences Po. Alors, La version officielle et que je dis en général et qui fait rigoler mes parents, c'est que mes parents m'ont obligée, ce qui est un peu vrai quand même. vraiment à 17 ans, j'avais pas forcément confiance dans le fait que je voulais devenir illustratrice professionnelle. Je connaissais pas le milieu, mes parents non plus. Et comme j'étais assez bonne élève, ils m'ont dit écoute, fais Sciences Po, ça te donne encore un peu de temps pour réfléchir puisque c'est assez généraliste. Mon père m'a dit mais je suis sûre ça va te plaire, ça a l'air super sympa. Je soupçonne que lui il aurait bien aimé faire ça. Non, et en fait j'ai adoré. C'est un parcours qui est hyper intéressant et surtout j'ai rencontré plein de gens qui étaient hyper intéressants et puis très créatifs en fait finalement. Il y a beaucoup de gens qui des bons élèves créatifs à qui on a dit tu fais Sciences Po et tu verras après, dont mon copain. donc non, c'était vraiment une formation, les trois premières années qui étaient hyper enrichissantes, on a fait de la théologie, de l'histoire de l'art, enfin il y avait évidemment de l'histoire des sciences éco et des sciences politiques, mais on pouvait choisir aussi des cursus qui étaient plus littéraires, plus sur l'histoire de l'art. J'ai même fait des cours de BD, l'histoire de la BD. Enfin bref, c'était vraiment hyper intéressant. Et après, j'ai fait des études en communication. J'ai travaillé un an en agence de communication où je sentais que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et à la fin de mes études, j'ai trouvé un stage merveilleux dans une agence qui s'appelait une agence d'illustrateurs qui s'appelle La Suite. Qui a été fondée par Morgane Lefrançois et en fait ça a très bien matché et je suis devenue agent d'illustrateur pendant 4 ans à La Suite où j'ai eu l'honneur d'être l'agent de Jess.
On s'est rencontrés comme ça.
Oui, on s'est rencontrés comme ça. Donc Alice, en plus d'être une super illustratrice, est une merveilleuse agent.
donc non, c'était super. À l'époque, on représentait, mais je pense qu'elle en a toujours à peu près 20 ou 25 illustrateurs en France à l'international. Le parcours justement que j'avais fait, où j'étais un peu plus chef de projet en agence de communication, ça permettait d'avoir ce côté gestion de projet, relecture de contrat, un peu organisation justement des budgets, tout ça. Donc ça allait très bien à Morgane. Et comme en parallèle j'étais illustratrice, je connaissais très bien les logiciels, donc s'il y avait besoin de dépanner un illustrateur sur Illustrator justement, Photoshop ou d'utiliser n'importe quel logiciel.
Oui, je me rappelle, tu faisais des super présentations avec des mises en page soignées.
Du coup, j'essayais effectivement de filer un coup de main là-dessus et d'être un peu le couteau suisse dessus. Et c'était hyper chouette. Tous les artistes étaient trop cool. Morgane était hyper pédagogue, hyper gentil. On s'entendait trop, trop bien. Donc, c'était génial. Et en 2019, comme je faisais de l'illustration à côté, on s'est dit, allez, je vais me lancer en tant qu'illustratrice. Et donc, elle m'a pas mal poussée aussi pour faire le prix des jeunes talents des agents associés. J'étais finaliste et c'est là où j'ai fait mon coming out. J'étais à ma petite table à la soirée des agents et c'est là où j'ai dit bah en fait effectivement je suis illustratrice. Et c'est là où j'ai rencontré aussi mon agent Sophie de Crasenso qui m'a regardé et fait mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Mais tiens donc tu dessines en fait. Donc c'était rigolo et c'est là où j'ai dit Lamia, est-ce que tu veux que je te montre ce que je fais?
Mais justement, est-ce que ton parcours, est-ce que ta formation, ton parcours atypique, ta formation Sciences Po et aussi ton précédent métier d'agent, influence ton travail ou ton regard sur l'illustration, ta façon de travailler, ça a changé quelque chose? Enfin, ça influence?
Je pense que les études, oui, dans le sens où il y avait un côté, j'ai un côté un peu bon élève, à vouloir rendre les trucs en heure, à essayer d'être... Donc je pense qu'il y a peut-être, oui, un côté synthétique, etc., un peu des études. Et après, d'avoir été agent, ouais, du coup, je suis assez carrée sur le côté organisation, chef de projet, parce que c'était mon travail pendant 4 ans, donc... Je pense pas que j'ai rendu quelque chose en retard, pour le coup. Ça m'angoisse de temps en temps, mais non, je crois que je suis relativement ponctuelle pour les deadlines des projets ou ce genre de choses. Et puis, ouais, je pense que le côté contrôle et tout, ça vient un peu de là où j'ai vraiment une contradiction à l'intérieur entre le côté qui aimerait être un peu plus spontané, mais qui a à peu près réussi pour l'expo, et le côté très dans le contrôle. Donc c'est ça qui se retrouve aussi un peu dans mon travail et sur mon bureau et un peu partout. Cette espèce de dichotomie, ouais.
Ce que tu disais aussi, c'est que le fait d'avoir été agent, ça t'a mis en veille en permanence sur les autres artistes, que faisaient les autres, voilà, d'avoir une sorte de regard en permanence sur ce que font les autres. Et ça m'amène à la question de quand t'es illustrateur, quand t'es artiste, est-ce que on n'est pas en perpétuelle remise en question de se dire, est-ce qu'il faut que j'évolue, est-ce qu'il faut que je change, quel est le point de vue qu'on a là-dessus, de à la fois rester soi-même authentique et en même temps de devoir être en permanence ouvert sur l'évolution des choses, des tendances, des styles, et comment vous vous inscrivez là-dedans, est-ce qu'il y a une remise en question perpétuelle ou bien au contraire de se dire non, je reste dans mes pénates.
Effectivement, en fait, le fait d'être agent, déjà, ça m'a aidé à trouver mon style actuel, entre guillemets. Mais il y a cette espèce de contradiction dans le marché de l'illustration, j'ai l'impression, où d'un côté, on nous demande d'avoir une patte qui est extrêmement reconnaissable. Les clients vont venir nous chercher pour des choses qu'on a déjà faites parce qu'ils voient qu'on les maîtrise. Et de l'autre côté, une incitation toujours à se renouveler pour pas nous ennuyer dans notre travail et aussi pour toujours montrer des nouvelles compétences et des nouvelles choses pour pas ennuyer les gens. Donc il y a cette espèce de chose qui, j'ai l'impression en tout cas, nous pousse à essayer de nous renouveler. Et c'est vrai que d'être agent, c'était hyper chouette d'avoir autant de veille, d'être tout le temps en veille parce qu'on cherchait aussi des nouveaux talents. Et puis même avec... les talents que nous on avait, c'était toujours merveilleux de les voir comment ils interprétaient un sujet, de voir les croquis arriver dans notre boîte mail, voir le processus créatif de tous les illustrateurs, c'était hyper intéressant. Donc c'est vraiment une des choses que j'aimais le plus. Ça a beaucoup nourri ma réflexion et la façon dont. C'était hyper intéressant et c'était un petit plaisir pour les yeux. Franchement, c'était vraiment très très cool. Mais du coup, il y a cette idée de renouvellement. Alors, je sais pas si c'est forcément de chercher à être à la mode ou justement d'essayer de s'en détacher parce qu'il y a une tendance à, quand il y a des grosses modes, les modes changent. Donc, le risque d'être un peu trop à la mode, c'est que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un petit peu moins de demandes sur un style qui est très très présent et très donc peut-être en fait que justement c'est d'essayer d'être dans l'air du temps mais en restant soi-même et un peu intemporel. Enfin, c'est des espèces de grand écart qui est pas toujours facile et du coup effectivement j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez les filles.
Non, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que enfin clairement c'est peut-être pas tous les 6 mois, ça peut être des fois plus. Juste moi c'est un peu après chaque projet, je suis bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau ou de pour se réinventer et comme tu dis en fait je suis complètement d'accord, il faut le piège d'être à la mode. C'est que la mode ça passe et que après on se retrouve un peu enfermé dans quelque chose qui correspondra peut-être plus du tout aux attentes des clients dans 1 ou 2 ans et je pense qu'il faut faire très attention avec ça et le mieux pour échapper je pense c'est de faire quelque chose qui nous ressemble parce que quand on fait quelque chose qui nous ressemble bah comme on est honnête finalement ça transparaît en fait dans notre travail et forcément c'est un peu intemporel puisqu'on est comme on est et voilà exactement on est un peu le seul à le faire même si il y a quand même des voilà il y a
influencé par plein de choses mais
oui et puis il y a aussi des voilà exactement et puis il y a aussi des comment dire il y a des courants un peu comme dans tout mouvement artistique enfin toute époque il y a des courants et dans l'illustration c'est pareil il va y avoir certains courants dans lesquels on va un petit peu se ranger en quelque sorte mais il faut quand même rester soi-même, je pense que c'est le plus important et essayer de faire aussi des projets qui nous ressemblent, enfin avec des clients qui nous ressemblent, qui correspondent à ce qu'on a envie de donner et de voilà. De
partager. Il faut rechercher sa propre singularité voilà, et exactement. L'exprimer avec sincérité, c'est les deux mamelles de la réussite d'un artiste, illustrateur, illustratrice.
C'est ça, exactement.
Ça se voit effectivement hein, quand il y a une posture ou quand on essaye de faire un truc pour plaire, pour que ça exactement. Plaise, ça sonne faux et ça dérape en fait. C'est un peu casse-gueule ça. Mais justement, vous avez toutes les trois, Alice, Jessica et Christelle, des styles intemporels, très très personnels. qui vous ressemblent. Et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on pourrait faire un blind test, mettre des dessins et de dire qui a fait ça, parce que vous ressemblez vous-même à vos dessins, en fait. Quand c'est on vrai. Voit les dessins de Jessica, on sait que c'est Jessica, pareil pour Christelle et Alice. En fait, les artistes, quand vous arrivez à ressembler à vos dessins, c'est bon. L'affaire est dans le sac.
Bah c'est nous en fait, hein, nos dessins, c'est des choses très personnelles. Moi je pense que il faut vraiment faire la part entre le travail de commande et le travail perso, parce que finalement on va forcément être un peu coincé quand on a de la commande, parce qu'on les clients vont nous appeler pour des choses qu'on sait faire ou qu'on a déjà fait. Donc on pourra pas trop forcément prendre des virages très violents et proposer quelque chose de complètement différent, même si on a envie de le faire à ce moment-là. Par contre, dans ces projets perso, c'est là, en fait, on peut se permettre d'expérimenter, et au fur et à mesure, évidemment, qu'on change, c'est un peu comme les musiciens au cours de leur carrière, on va, pendant 5 ans, ils vont avoir un genre, un style, et puis après, ils vont évoluer, et souvent, on leur reproche d'évoluer, parce que les fans adorent la première époque, et tout, et on leur dit, ah non, mais c'est pas comme avant, et tout. Mais je pense que quand on veut être dans la durée, forcément, parce qu'on change, on n'est plus les mêmes à 20 ans, qu'à 30 ans, etc. Mais c'est vrai que le piège, c'est que quand on vit seulement de la commande, on peut un peu s'épuiser à faire toujours la même chose, parce qu'on nous appelle pour ça, et on peut pas en vouloir aux clients nous appeler pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, et c'est pas facile, parce que c'est notre gagne-pain, de pas prendre toujours de la commande, et de se laisser de la place pour les expos, les projets perso, ou les projets dont on est à l'origine. Moi, je fais pas mal d'éditions. Pour le moment, j'ai eu que des livres qui étaient des livres de commande, du documentaire ou même des réadaptations de contes. Donc, le projet vient pas de moi. Mais là, ce que j'aimerais vraiment dans les années qui viennent, c'est d'écrire l'histoire et de proposer mes choses. Et je sais que si ça vient de moi, mon dessin va pas être tout à fait la même chose, parce que je vais vouloir proposer autre chose, parce que c'est mon projet. Et j'ai le droit de faire ce que je veux.
Parce que c'est... Oui, et puis ta voiture, ça vient d'une résidence aussi, là, d'artiste.
Ah oui. Oui, bah, c'était en Suisse. Oui, j'ai des agents suisses.
Oui. C'est aussi l'occasion pour toi, ce genre de résidence, enfin, pour les artistes.
Complètement,
de
parce
se renouveler,
que là, je suis partie sans ordi
choses.
Et je me suis remise au feutre, au croquis d'observation. J'étais complètement rouillée parce que j'ai plus du tout l'habitude. En plus, moi, les paysages, c'est pas mon fort. J'aime bien, comme Alice, toujours qu'il y ait des petits personnages ou des petits animaux. Donc je me suis un peu, enfin, faut un peu se forcer, mais ça fait du bien. Et on va voir ce que ça donne, hein. Ça prend du temps un peu de débloquer des nouvelles choses, mais c'est chouette. Franchement, on a des métiers quand même. C'est sympa.
Et heureusement que vous êtes là, hein, on empêche les artistes et tout ça dans ce monde un peu âpre dans lequel on vit.
Je crois que c'est un peu égoïste aussi de notre part, parce que je pense que c'est notre façon de s'évader aussi. Enfin, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais là, personnellement, j'ai pas eu trop l'occasion de créer depuis quelque temps, parce que je suis maman d'un petit garçon.
Tu as déjà créé quelque chose, voilà. Un très beau projet, très ambitieux, très réussi.
J'ai tout donné. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps, je pense que, et quand on est, quand on fait de la création, c'est difficile, parce qu'on n'a plus trop le temps de cette petite oisiveté, ou de regarder les choses. Enfin, personnellement, je suis beaucoup dans la contemplation. Je pense que ça se ressent peut-être dans mon travail, et j'en ai vraiment besoin pour créer. Et là, j'ai pas, en fait, je peux pas contempler, je n'ai pas le temps, et je ressens le manque. Enfin, même voilà quoi, sur le bien-être, de pas créer, ça commence à avoir un impact. Donc en fait, je pense que quand tu dis on a besoin des artistes, je pense que les artistes ont besoin aussi de créer, en fait, et de faire ça pour s'évader, pour exister, pour vivre, en fait, parce que au bout d'un moment on étouffe si on n'exprime pas un peu, on extériorise pas tout ça.
Et ça m'amène justement ça à une question pour Alice, dans ce qui te définirait aujourd'hui, parce qu'on en parlait un peu justement de ce temps. T'avais dit sérénité comme mot qui comptait pour toi, d'avoir un besoin de sérénité, et est-ce que tu peux rajouter quelque chose?
Ouais, en y réfléchissant, je pense que ce serait vraiment équilibre aussi. Dans le sens où la vie de freelance, je me souviens quand je m'y suis mis, mon père m'a dit « Par contre, juste je te préviens tout de suite, tu travailleras beaucoup plus qu'avant. » Et en fait, effectivement, quand on est indépendant, même si c'est des métiers qui sont globalement agréables et que et vraiment créatifs, effectivement, c'est très très prenant et c'est surtout ça vient par vagues. On a vraiment des moments, je pense. C'est vraiment une grosse vague de travail. Après, on est dans le creux de la vague à stresser que finalement il y a peut-être plus. Enfin, est-ce que ça va remonter? Oui. Finalement, ça remonte, mais ça remonte trop. Enfin, bref, donc, essayer de trouver l'équilibre pour naviguer au milieu de tout ça et prendre du temps effectivement pour faire des choses créatives uniquement pour soi et pas forcément pour soit s'amuser ou débloquer des nouvelles choses et effectivement avoir le temps d'expérimenter plein de choses parce qu'à l'atelier on a l'équivalent d'un rougi et plaie on est toutes un peu fans de tester des nouveaux jouets et des nouveaux ateliers créatifs.
J'ai 25 pelotes de laine pour faire un tapis, des caisses entières de pelotes de perles.
C'est ça, je crois que je suis la pire. Bref, donc c'est ça, trouver l'équilibre et du temps pour profiter.
C'est pas toujours évident, mais il faut le prendre en fait. Ouais.
Bon, ben maintenant, on a fait un peu le tour. Enfin, on pourrait continuer plus longtemps. Et on va passer à l'épisode du tirage de tarot. Donc en fait, tout se passe avec la main gauche, Alice. Il faut brasser les cartes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Oh là là, Alice, plein.
Voilà, ça va. Tu voulais le soleil, tu as le soleil. Donc c'est un tirage de 4 cartes. On commence par l'impératrice. Alors ça, c'est vraiment, c'est un peu toi. C'est la maîtresse de ton empire, hein, de ta vie. Donc là, c'est un très bon tirage. On va peut-être pas le détailler en carte par carte, mais en gros, effectivement, tu commences par une impératrice, maîtresse femme. Hein, c'est toi. Qui sait décider, qui sait prendre la main sur les choses et qui sait comment mettre un pied devant l'autre et y arriver. Le jugement, c'est une carte très constructive aussi, qui peut aussi être c'est la carte du futur proche et qui est en fait une carte justement peut-être de réflexion, de remise en question. C'est peut-être un tourné-boulé encore, tu sais, que tu évoquais pendant le podcast.
Encore un.
Oui, mais très positif, parce qu'en fait, il est amené par l'étoile, qui est la deuxième carte du jeu, qui est une femme aux cheveux bleus, qui pourrait être toi aussi, et qui mélange deux eaux dans la même rivière. Donc, c'est une carte très douce, de bonheur, en fait, diffus, et de bonheur aussi, de compromis entre le passé, le futur, entre ce à quoi tu aspires et ce qui te construit. Donc, en fait, la carte du jugement arrive juste derrière, et c'est une carte, de réflexion, de fondation, qui est très constructive, qui est très positive. Et tout ça, ça nous amène à la carte de synthèse, qui est en fait la carte du soleil. Ce sont deux bambins, deux jumeaux bien potelés, bien dodus, qui sont sous un soleil rayonnant. Donc ça, c'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur sans condition, et voilà. C'est un très beau tirage. Et donc, pour les 3 prochains mois, c'est un tirage sous un court terme. Maintenant, tu m'en diras des nouvelles. Hein. J'assure le service après-vente, comme d'habitude. Donc beaucoup de c'est très très positif. Voilà, c'est
super. Là, ça fait du bien. Et il y aura un peu de soleil la semaine prochaine.
Mais le soleil, c'est bon. Ça, tu l'as.
Trop chouette. Génial.
Bon, merci beaucoup. Merci de votre temps d'avoir été là toutes les trois. Et on se voit demain, du coup. Vous venez pour le vernissage. Il y aura un énorme spritz.
Oui.
Merci. Salut.